cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Dominique Gluzet.
Bonjour.
Vous dirigez avec Renaud Capuçon le festival de Pâques. Ça va être la deuxième édition cette année, du 14 au 27 avril à Aix. Quelque chose qui vient s'ajouter sur dans votre déjà longue carrière et dans votre triple casquette, on pourrait dire. Vous êtes à la tête des théâtres du Gymnase, du Jeu de Paume et du Grand Théâtre de Provence, entre Marseille et Aix. Votre vie est donc entre Marseille et Aix. Alors on va parler de tout ça, de cette deuxième édition du Festival de Pâques. Comment le Neuilléen, c'est ça qu'on dit, devient un Marseillo-Aixois?
Très jeune, j'ai fait des tas de choses. J'ai été le plus jeune directeur de théâtre en France, plus jeune metteur en scène d'opéra. J'ai joué dans les plus grands théâtres. Je tournais au cinéma, j'ai failli avoir un César. J'avais fait ça à 28 ans. Et je me suis dit, je vais devenir con. Donc il faut que je parte dans un endroit où je connais personne. Et je suis arrivé à Marseille, que je ne connaissais pas, où il y avait un théâtre en faillite. J'avais posé ma candidature. Et il y avait des gens très prestigieux. Et je me suis dit, il faut que je fasse le projet le plus con, je suis sûr d'être retenu. Parce que comme le théâtre était en faillite, ils avaient tous peur qu'il y ait un metteur en scène qui dise, ah ben moi, il me faudrait 2 millions supplémentaires. Moi, j'ai fait le projet le plus consensuel en deux mots qu'on puisse trouver, et j'ai été choisi. Et je suis arrivé dans cette ville que je ne connaissais pas. J'ai eu beaucoup de mal la première année. Marseille, ce n'est pas une ville anodine. Et au bout d'un an, j'ai vraiment failli partir. Et puis, il se trouve que j'ai été invité à dîner par des gens qui étaient des gros fêtards et qui m'ont fait, en une soirée, découvrir un Marseille que je ne connaissais pas. Ça a commencé par un resto dans le panier. Ça a terminé dans une boîte marseillaise très célèbre qui s'appelle Le Son des Guitares. Et ça s'est terminé à 5h du matin dans les Calanques pour se baigner. Et là, ça a été une rencontre avec non seulement une ville, mais un mode de vie qui est propre à cette ville, qui a des tas de défauts, qu'on peut très facilement caricaturer, mais qui a une appétence au bonheur qui est extraordinaire.
Alors parallèlement à ce changement, on pourrait dire, d'ordre géographique, il y a aussi presque un changement, on pourrait dire, que vous avez changé votre fusil d'épaule, puisque vous êtes engagé d'abord dans une carrière, comme vous l'avez dit, d'acteur, de metteur en scène, et vous vous retrouvez maintenant plutôt de l'autre côté, on pourrait dire, de la...
C'est-à-dire que pour moi, être acteur, c'était restrictif. J'ai eu des aventures extraordinaires. Je suis le seul acteur à avoir été mis en scène au théâtre par Abdelkechiche. On avait 20 ans, on a joué ensemble une pièce au Festival d'Avignon. J'ai joué dans des grands théâtres, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très gâté par la vie en tant qu'acteur. Mais à un moment, moi, mon rêve, c'était comment ça se fabrique, le théâtre? Ça veut dire quoi? C'est quoi la finalité? Comment est-ce qu'on est... Finalement, faire du théâtre pour faire du théâtre, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais être militant du théâtre. Et ce mot militant était très important pour moi. Donc à partir de là, je m'engageais dans quoi? C'était quoi mon chemin de vie? Je pense que j'étais un bon acteur, mais que je n'étais pas un grand acteur. Et je trouve que... être acteur, ça n'a de sens de n'être qu'acteur que si on est vraiment un grand acteur, que si on est François Cluzet, que si on est Christine Scott Thomas, etc. Sans ça, il y a des acteurs qui sont très heureux d'être acteur, mais moi ça ne me suffisait pas. Moi je voulais faire du théâtre et quelque part de manière totalement orgueilleuse, je voulais être du théâtre.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend facilement? De justement se retrouver tout à coup à la direction de différents établissements.
Alors, non, le parcours
s'est fait étape par étape, j'imagine.
Alors, j'avais été le plus
jeune
directeur.
Vous aviez des envies, comment ça se passait? C'est-à-dire que vous êtes vraiment sauté finalement dans le bain?
Non, parce que à 23 ans, en sortant d'une école qui s'appelle La Rue Blanche, j'avais monté un petit spectacle et on s'était retrouvé à jouer dans un théâtre. Et je faisais tout. J'étais acteur. Mais j'avais compris que mes copains, ils voulaient juste jouer, et moi, il fallait que je colle les affiches, je m'occupe des réservations, que je nettoie les costumes, etc. J'ai compris très vite ce que c'était qu'être producteur. C'était larbin. Producteur, quand vous êtes au début, c'est celui qui fait tout. Et je me suis intéressé à l'accueil des gens dans le théâtre, comment ils arrivent, etc. Et un jour, le ministère de la Culture, me voyant agir, j'avais 23 ans, m'a dit, mais vous savez, vous êtes fait pour diriger un théâtre, on va vous donner le théâtre dans lequel vous jouez, qui était un petit théâtre à Paris, le théâtre Essaillon, un théâtre d'art et d'essai, avec deux salles. Et je me suis retrouvé à 23 ans là-dedans, je n'y connaissais rien. Mais j'ai appris très vite que finalement, l'enjeu essentiel, c'était le public. Comment est-ce que on faisait coïncider les rêves d'un auteur avec un outil qui s'appelle l'acteur et le public? À quel endroit, comment on organise, comment on sacralise cette rencontre? Et puis après, donc quand je suis arrivé à Marseille, j'avais quand même cette idée que être producteur, c'est être celui qui fabrique. J'avais produit des spectacles à côté, j'avais travaillé pour le bicentenaire de la Révolution, j'avais organisé des grands trucs, tout en continuant à jouer. En arrivant à Marseille, je me suis dit que c'était pas anodin de faire du théâtre dans cette ville et qu'on ne pouvait pas considérer cette ville. Enfin, la vie m'avait amené à cet endroit-là et ça devait être pour une raison particulière si j'étais là. Et si j'étais là, c'est parce que j'avais quelque chose de différent à y faire. Et donc ce théâtre a été un outil pour se dire comment est-ce qu'on vit ensemble sur un territoire. Et puis il y a eu un premier théâtre, je suis arrivé en 90, en 93 je suis resté le seul directeur de ce théâtre. En 96 la ville d'Aix est venue me chercher pour
Jeu de
s'occuper
paume.
du jeu de paume qui était en ruine, qu'on a restauré, qu'on a inauguré en 2000.
Est-ce que justement rajouter déjà ne serait-ce qu'une deuxième corde à votre arc, c'est quelque chose, vous avez pris la décision en un claquement de doigts, ou ça vous a fait
Oui.
quand même, c'est-à-dire que le fait que ça change une autre ville déjà, autre chose, un autre comment, où vous étiez de toute
Alors,
façon pareil,
vous savez,
c'était
il y a
différent.
un antagonisme entre Aix et Marseille qui remonte à la guerre des Gaules. C'est-à-dire que Aix avait choisi César et Marseille avait choisi Pompée. Et César est venu assister à la capitulation de Massilia et avait interdit de rendre justice, c'est pour ça que les tribunaux étaient à Aix, d'enseigner, c'est pour ça que toutes les facs étaient à Aix, et de battre monnaie. Le pouvoir donc s'est transféré de Marseille à Aix. Et Aix est resté, Marseille est restée une ville populaire pendant très longtemps. Et moi, quand je suis arrivé à Marseille, on m'expliquait que les Aixois, c'est des gros cons de Bourges qui comprennent rien à rien. Au point que quand j'ai délocalisé pour la première fois dans l'histoire la Comédie-Française à Marseille, j'avais dit au maire de Marseille, Robert Vigouroux, on va débaptiser la Porte d'Aix et on va la rappeler Porte d'Aix-EX en hommage aux ex-immigrants qui à Marseille sont devenus des citoyens français. Parce que Marseille, c'est une ville formidable à fabriquer de la citoyenneté. Et puis on me dit, bah tiens, tu veux aller à Aix. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que si Marseille m'a enseigné le sens du bonheur, Aix m'a enseigné le sens du beau. Et que y a 20 km, 28 km entre les deux. C'est plus facile d'aller d'Aix à Marseille que d'aller de la Porte Maillot au château de Vincennes. Et à un moment, bah, vous vous dites, c'est un territoire hors norme. Et c'est un territoire qui, de manière très différente, ce complexe, se complète. Aix, c'est la ville où sont enterrés trois des plus grands peintres français, Cézanne, Picasso et Masson. C'est la ville où il y a deux prix Goncourt vivants, Edmond Charleroux et Paul Constant. C'est une ville qui a un rapport à l'art qui est profondément dans ses gènes. À Aix, au début du 19e siècle, il y a dans une école maternelle, enfin dans une école primaire, dans la même classe, la même année, assis côte à côte, deux élèves. Ils s'appellent Paul Cézanne et Émile Zola. Ils sont ensemble à l'école primaire. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu comme ça deux génies de cette dimension dans la même école. Je pense à la tronche de l'Instit au paradis qui a dû se dire, putain, quand j'avais Cézanne et Zola dans la... Comme si aujourd'hui à Marseille, on disait, il y a Zidane et Messi qui sont dans la même classe, quoi. C'est juste pas possible. Eh ben, Aix, c'est porteur de cette histoire-là. Et à Marseille, qui est une ville du verbe, c'est une ville d'acteurs, c'est la ville de Montand, c'est la ville de Fernandel, c'est la ville de gens qui étaient à la fois très extravertis et qui pensaient que le monde était sans frontières et pouvait leur appartenir. Et donc la réunion des deux, ça m'a permis de construire une aventure artistique hors norme, parce que personne d'autre en France ne dirige trois théâtres et un festival, mais qui s'est dotée d'une mission militante qui consiste à dire, ça sert à quoi aujourd'hui un outil culturel sur un territoire comme ça? C'est quoi le vivre ensemble? Comment ça peut y contribuer? Comment est-ce qu'on peut fabriquer nos modus vivendi de demain à travers des spectacles, à travers des croisements de public, etc. Le spectacle vivant, c'est en pleine mutation parce que des entreprises comme la vôtre viennent bouleverser la donnée de la transmission artistique. Comment est-ce que nous, on est capable aujourd'hui, en travaillant avec vous, d'inventer un demain culturel qui sera plus citoyen, plus militant, plus fort et qui nous permettra d'aller vers des gens qui aujourd'hui sont totalement étrangers à l'art?
Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues parce que vous n'étiez pas le régional de l'étape ou finalement...
Non, en plus, vous savez, quand je suis arrivé à Marseille, j'avais une grosse star, c'est que ma sœur travaillait au PSG. Alors ça, je le disais à personne. Mais c'était assez douteux. Mais en plus, c'était en pleine époque Tapie. Moi, je voyais au stade Vélodrome, Waddle, Papin, enfin tous ces joueurs-là, c'était de la folie le stade Vélodrome à l'époque. Mais la culture avait finalement peu droit de cité. Dans ces années-là. Et petit à petit, on a construit une aventure. Je crois qu'ils m'ont laissé faire ça parce qu'en gros, le théâtre, tout le monde s'en foutait. C'est-à-dire, c'était pas un enjeu. Il y avait un mec, il y avait un théâtre à Marseille, il allait en avoir un à Aix. Bon, ben, c'était pas grave. Ça prêtait pas, il n'y avait pas de danger. Et donc, on m'a laissé faire. Et une fois que c'était fait, et qu'on a montré que les gens, ils allaient d'une ville à l'autre, que les artistes ont commencé à dire « Mais c'est formidable de jouer ici. » Vous vous rendez compte, il y a 20 000 abonnés. Il n'y a pas beaucoup de villes en France où il y a ça. Il n'y en a même pratiquement aucune. Pour les artistes qui jouent des spectacles un soir, deux soirs dans les villes et puis qui font des tournées, et on leur dit « Vous venez à Marseille, vous venez à Aix et vous jouez trois semaines. » Pour eux, c'est une relation au territoire qui est totalement différente. On s'offre des luxes. Par exemple, ce soir, on a sur un plateau Cécile de France et sur un autre plateau Marianne Chazelle. Et donc d'être dans des formes artistiques très différentes et pourtant de convoquer sur cette aventure-là des acteurs de dimension nationale, européenne, etc. Et en même temps, on s'offre le luxe de décrocher le plus gros mécénat culturel français pour créer un festival de musique à Pâques, avec la folie de se dire on peut faire d'Aix-en-Provence l'équivalent de Salzbourg. Et on va y arriver. Et ça, c'est formidable.
Ça représentait quoi la musique pour vous avant cette aventure?
Je fais toujours pas la différence entre un sol et un fa, et je pense que c'est ma force. C'est-à-dire que je ne me suis pas positionné comme un musicien qui voulait créer un festival. Ça, c'est le rôle de Renaud Capuçon. Mon rôle à moi, c'était de dire... ça consiste à quoi, ça veut dire quoi aujourd'hui de vouloir faire de la musique classique, de vouloir jouer Brahms, Tchaïkovski, etc. dans un monde où les ados savent même pas qui c'est ces gens-là. Comment est-ce qu'à un moment, justement, on est capable de raconter à la société que l'émotion, elle a un sens, quelle que soit la date de la composition d'une œuvre, et que, en plus... Au 18e ou au 19e siècle, quand on composait de la musique, il n'y avait pas les supports de radio, de télé, etc. La musique, c'était vraiment quelque chose qu'on partageait au sein d'une famille, d'un village. On a beaucoup travaillé avec l'idée de la radio, parce que dans les années 50, après la guerre, il y avait beaucoup de salles de concert détruites, il n'y avait plus rien. Et les grands orchestres se sont construits autour des radios, parce que c'était le moyen de diffuser qui était le seul possible. Pour faire de la diffusion à haut niveau. Et donc, tous les orchestres, toutes les radios avaient leur orchestre. L'orchestre de Radio France, l'orchestre de la radio suisse romande, etc., etc. Et ils diffusaient des concerts. Et à l'époque, on mettait le transistor au milieu du salon et la famille, les voisins se réunissaient pour partager ce moment musical. Aujourd'hui, alors après, c'est tombé un peu en désuétude, parce que la radio est tombée en désuétude. Mais aujourd'hui, avec les outils qui sont ceux d'aujourd'hui, on peut réinventer un vivre ensemble différent. C'est-à-dire qu'on peut convoquer des publics partout dans le monde pour écouter quelque chose, à un moment donné ou pas à un moment donné, dans une playlist ou sur l'instant, mais on peut à un moment véhiculer à une communauté de gens extrêmement large l'idée que, bah tiens, cette émotion-là, on peut la partager ensemble.
Qu'est-ce que vous avez appris en préparant la première édition l'an passé et après qu'elle se soit déroulée, à titre personnel, pour le producteur, l'homme effectivement de théâtre au sens large du terme. De nouveau, dans votre parcours, l'expérience était nouvelle. Vous avez dit vous-même le rapport un peu quasi inexistant que vous entreteniez avec la musique jusque-là. Qu'est-ce que vous avez appris au sein de cette expérience ?
Alors, j'avais été très jeune metteur en scène d'opéra. Donc, j'avais mon rapport à la musique, il était surtout lié à l'opéra. Ce que j'ai découvert de formidable, c'est l'émotion que pouvait susciter un concert. On a fait toute une série de concerts, par exemple au mois d'août. On fait des concerts tous les mois d'août pour les gens qui partent pas en vacances. Et vous voyez arriver des gens pour qui la musique classique, c'est pas leur quotidien, des femmes des quartiers, etc., qui s'assoient dans la salle avec une sorte de respect dû à un lieu qui est comme si on rentrait à l'Élysée, quoi. Et elles s'assiedent et on leur dit la seule chose qui est difficile, c'est de rentrer dans la salle. Après, vous fermez les yeux, vous écoutez. Et là, vous vous apercevez que la musique, à un haut niveau, elle vous emporte dans un univers intérieur, dans une émotion intérieure qui est extrêmement riche, qui est extrêmement forte, parce qu'elle travaille sur une durée. Aujourd'hui, les musiques actuelles, vous êtes sur des œuvres courtes qui font 3-4 minutes, une chanson. Quand vous êtes sur une symphonie, sur un concerto qui fait 30-40 minutes, votre esprit ne vagabonde pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il s'octroie des pauses dans la musique, mais il repart après. Il y a une ligne musicale qui dure la totalité de l'œuvre, qui vous permet d'avoir des hauts et des bas. Et ça, c'est formidable sur la musique classique, c'est ce rapport au temps qui est différent qu'elle permet d'apporter, parce qu'elle apporte un voyage intérieur qui est très différent. La musique classique, sur une même œuvre, on peut l'écouter et l'entendre. Sur une chanson, vous l'écoutez ou vous l'entendez, parce qu'elle est courte. Vous êtes en voiture, vous mettez la radio, etc. Vous vous mettez dans une salle de concert, vous n'êtes pas debout, vous êtes assis. Comme c'est généralement des fauteuils plus confortables, vous pouvez même fermer les yeux, rêver, vous laisser aller. Et à un moment, il y a des moments où votre esprit vagabonde, vous ne faites qu'entendre la musique. Puis à un moment, la musique vous happe de nouveau et là, vous allez l'écouter. Et ça, c'est une sensation formidable parce que c'est un rapport à l'art qui est différent. Le théâtre demande une concentration, parce que si vous loupez une phrase, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe après. Mais sur la musique, l'émotion, elle peut être segmentée. Et ça, c'est formidable pour des gens qui ne connaissent rien à la musique. Et puis, c'est vrai que les acteurs, c'est toujours des génies au café. Moi, j'ai passé ma vie à entendre des acteurs au resto, le soir, après la pièce, ou au café, vous raconter tous les rôles qu'ils n'ont pas joués, ou qu'ils ont joué, ou qu'ils auraient aimé jouer, ou qu'ils auraient mieux fait que Jean Gabin, ou quoi que ce soit. La musique, on ne peut pas tricher. Le mec qui ne travaille pas 6-8 heures par jour sur son instrument, il peut pas jouer. La technicité de la musique, comme la technicité de la danse, elles sont à la fois un carcan pour l'artiste et en même temps une énorme source de liberté. Et quand vous voyez avec des cultures différentes, des jazzman ou des musiciens comme Ahmad Jamal, qui tout d'un coup se lâchent, se laissent aller, parce que les musiciens de musique classique, ils ne savent pas faire un bœuf. Vous leur dites, tiens, vous êtes 3-4, allez improviser, jouer, ils ne savent pas. Sortis de la partition, ils ont énormément de mal. Mais à l'intérieur de la partition, ils arrivent à voyager. Mais quand vous travaillez avec des jazzman qui, à la fois, ont une culture classique et en même temps cet espace de liberté, alors c'est formidable de voir des musiciens comme ça qui partent dans des délires et qui vont vous emmener dans des ailleurs étonnants. Je me souviens de Stacy Kent chantant chez moi là, et puis à un moment partant dans une sorte d'impro, et toute la salle qui se lève pour dire ouais, c'est extraordinaire, on vit quelque chose d'unique. Ce que ça apporte, la musique vivante, c'est qu'on vit un moment unique. Il faut aller dans des salles de concert pour partager à la fois une unicité du public, tout le monde est ensemble, et en même temps quelque chose d'unique qu'on vit.
Quand vous avez préparé cette deuxième édition du Festival de Pâques, je préciserai juste donc que c'est 5 lieux, 22 concerts, 7 orchestres symphoniques. Je vais faire un peu de name dropping pour montrer quand même qu'il y a du lourd, comme on dit. Des artistes assez prestigieux, que ce soit Yo-Yo Ma, Martha Argerich, Daniel Harding, Gustavo Dudamel, l'ensemble Pygmalion, Ophélie Gaillard, Yannick Nézet-Séguin, évidemment Renaud Capuçon, etc. Comment on construit une programmation? Comment vous avez travaillé avec Renaud Capuçon?
Alors,
par rapport à cette...
La difficulté, ce qui est passionnant pour Renaud et moi, c'est comme on est d'univers, on a choisi de travailler ensemble. J'allais dire, on a choisi de vivre ensemble, parce que quelque part, construire un festival, c'est partager beaucoup de moments de sa vie. Et donc, j'ai essayé de lui apprendre ce que c'était qu'un storytelling, de lui dire, il faut qu'on raconte une histoire. Un festival, il raconte une histoire. Il a une architecture, et dans cette architecture, on va caser des moments, des pièces, des lieux qui sont essentiels. Donc, on a rajouté les églises. Cette année. Et à partir de là, l'idée, moi j'ai imposé à Renaud qu'il y ait une carte blanche à Renaud Capuçon. Lui dire, là je veux pas que tu te poses la question de quelle va être la programmation par rapport au festival, je veux juste que je t'impose ce concert, et toi la seule chose que tu dis, c'est quoi mes rêves? Avec qui j'ai envie de jouer? Avec qui j'ai envie de partager quelque chose? C'est mon bœuf à moi. Le fait de lui dire, voilà, improvise-moi un programme qui tourne autour de toi. À partir de ça, on a quelques codes. C'est intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des très jeunes musiciens dans des concerts qui s'appellent Génération at X, où on prend des jeunes musiciens comme Edgar Moreau ou d'autres, qui sont parrainés par des musiciens qui ont une quarantaine d'années. Il y a cette année une génération de chefs d'orchestre, que ce soit Nézet-Séguin, Morlot, Daniel Harding, Doudamel, etc., qui sont un peu de la génération de Renaud, qui sont ceux qui, dans les 20 prochaines années, vont être les grands chefs de la musique classique. Et puis, il y a ces musiciens hors normes qui viennent, Martha, Yo-Yo Ma ou d'autres, et c'est toutes ces générations confondues qui donnent le sentiment que... ce que j'essaie d'expliquer à des jeunes, s'il y a des mômes de 20 ans qui jouent de la musique classique, il n'y a pas de raison que des mômes de 20 ans, ils n'aient pas envie d'aller en écouter. Il y a un moment où, encore une fois, c'est l'ignorance qui rend la musique classique éloignée de soi. Il faut vaincre cette ignorance, être capable d'aller affronter son ignorance et dire « je vais essayer d'éprouver ».
C'est votre bâton de pèlerin, ça, un peu? Vous avez parlé de militantisme au début, quand vous êtes engagé dans cette carrière, c'est-à-dire la transmission, faire découvrir ce public qui ne va peut-être pas tout le temps au théâtre ou pas tout le temps écouter des concerts classiques.
C'est de me dire à quoi ça sert ce qu'on fait. Quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on fait dans le monde d'aujourd'hui? Dans un monde qui est de plus en plus, qu'on essaye de schématiser de plus en plus, mais qui est en même temps très compliqué, qu'on a du mal à comprendre, dans lequel on a peu de lieux pour se retrouver, pour éprouver une émotion collective, à quel moment, à quel endroit la culture, ce qu'on fait, la chance qui nous est donnée, comment on la redonne à la société en essayant de partager avec elle cette grâce-là. Et comment, moi, mon boulot, c'est finalement de faire en sorte de dire aux gens, il y a un espace de bonheur, il est là. Dans cet espace de bonheur, vous allez éprouver des sentiments différents. Vous pouvez être triste, vous pouvez être interrogatif, peut-être que vous pouvez vous faire chier, mais... vous allez venir et éprouver quelque chose. Dans un monde où on ne vous donne plus le loisir d'éprouver, où on vous mâche des émotions télévisuelles, et ben nous, on va vous offrir quelque chose de très différent, qui est la relation d'un homme à un autre homme, d'un artiste à un spectateur.
Est-ce que c'est quelque chose qui est encore plus difficile à organiser, à fabriquer en période de crise? Comment vous avez vu l'évolution de tout ça? Ça fait à peu près une vingtaine d'années maintenant, un peu plus même d'une vingtaine d'années. Vous êtes engagé là-dedans?
Finalement, je trouve que ça a plus de sens aujourd'hui qu'avant. Moi, je me souviens des années langues, tout est culture. Donc, il y avait des mômes, ils taguaient les murs des cités, on disait « Oh, c'est formidable, c'est de l'art !» Comme si tout d'un coup, il y avait des Basquiat dans toutes les cités de Seine-Saint-Denis. Et la cuisine, les coiffeurs, ils étaient artistes pelliculaires. Enfin bon, tout le monde se prenait pour des artistes. Et le temps... a permis de ramener les choses à ce qui était le plus important pour l'individu, là où c'était un apport, là où il y avait une force poétique, là où il y avait une force émotionnelle. Alors évidemment, face à la crise, vous avez des gens qui font le choix, qui disent « on ne peut plus sortir, on n'a plus les moyens de… » etc. Mais on essaye aussi, nous, ça nous impose de devenir plus inventifs, de savoir comment on va aller vers eux si eux ne peuvent pas venir vers nous. Et c'est pour ça que quand on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils comme Qobuz et de se dire, tiens, par ce biais-là, on va pouvoir quand même continuer à véhiculer ce à quoi on croit, alors ça, c'est forcément formidable.
Comment on jongle entre justement les investissements publics, qui en général, en période de crise, on sait que la culture est en général toujours à tomber au premier rang dans des lignes, et le mécénat privé, le mécénat qui, on sait qu'en France, on a encore un peu de retard par rapport aux pays anglo-saxons, où une exposition accepterait sans aucun problème d'avoir le nom d'une marque de lessive en gros au-dessus du titre de l'expo, alors qu'on sait qu'en France, ça reste encore...
Mais ça va plus loin que ça, c'est la notion de l'égoïsme. Les Américains, les Anglais, les Anglo-Saxons considèrent qu'ils doivent restituer à la société une part de ce que la société leur donne. C'est profondément inscrit dans leur gène. Alors, il y en a qui choisissent de faire des dons à leur église, d'autres à des musées, mais c'est un geste naturel. Quand on voit... alors, en France, aujourd'hui, ce qui est devenu dans la norme, c'est tous les dons en faveur de l'humanitaire sur lequel la France est un pays extrêmement généreux. La culture, on a toujours considéré que ça devait être le fait du prince. Depuis Louis XIV, c'est le roi qui fait la culture, c'est Louis XIV qui fait Molière, Napoléon qui fait David, etc. etc. Mais il se trouve que nous, on a eu la chance d'être capitale européenne de la culture sur ce territoire. Et ça a fait prendre conscience aux gens, 10,5 millions de visiteurs quand même, que la culture, c'était peut-être un des endroits qui pouvait sauver ce territoire, en tout cas... Dans une année qui avait été extrêmement marquée par les Kalachnikovs, la drogue, etc., la culture a su contrebalancer cette image-là et on a attiré des centaines de milliers de touristes supplémentaires. Ils sont pas venus pour acheter des Kalachnikovs, ils sont quand même venus parce que c'était capitale européenne de la culture. Donc aujourd'hui, il faut amplifier ce phénomène et il faut être plus inventif. Il faut savoir comment aller solliciter les gens, comment leur parler, comment... Et je constate qu'on y arrive. On y arrive. C'est peut-être plus difficile, c'est peut-être plus laborieux à certains endroits. Il y a sûrement des pans de la culture qui ne trouveront plus preneur dans ces nouvelles normes. Mais il y a des tas d'autres endroits où il y a encore énormément de choses à inventer.
Comment vous avancez justement par rapport à tous ces théâtres, par rapport à tous ces projets, par rapport à la situation actuelle, comme on a dit, bon, bah, Marseille, capitale européenne de la culture, c'est terminé, mais en même temps... Comment on vit l'après, comment on gère l'après, la crise elle est encore là pour l'instant. Comment vous jonglez avec toutes ces données, aussi bien en termes de programmation et même en termes d'envie, de ce que vous avez envie de faire, comment faire évoluer votre philosophie du spectacle en général, comme vous venez de l'évoquer en ce moment.
Alors il y a une phrase de Molière qui dit « Je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre ». Moi, j'ai toujours pensé, on a travaillé 4 ans pour préparer 2013. Et j'ai toujours dit à l'équipe, 2013, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Donc, on s'est jamais mis dans la tête qu'après 2013, il n'y aurait rien. On s'est toujours dit, ce qu'on va inventer comme schéma, là, on a fait 310 représentations en 2013, on a vendu 290 spectacles, enfin représentations en tournée, on a fait 16 productions, on avait un budget de 24 millions d'euros, on a créé des spectacles avec des gens aussi différents que Abdel Malik, que Angelin Prejlocage, des acteurs, des trucs très différents. Eh bien, on est sur une lancée. On ne va pas pouvoir continuer au même rythme, mais on va pouvoir continuer dans le même esprit. Et comment on va rester curieux? Comment est-ce qu'on va être attentif? Et surtout, comment est-ce qu'on va se servir de ça pour redonner encore plus de sens militant à notre aventure? Comment on va se poser la question du territoire? Comment on va se poser la question de public exclu? Par exemple, c'est les personnes âgées dans une ville. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ramener des gens qui sont seuls grâce à la géolocalisation et comment est-ce qu'on va pouvoir inventer, continuer à fabriquer cette idée que des lieux de culture, c'est des lieux de vivre ensemble et que la mission qui est la nôtre, c'est de partager l'art avec le plus grand nombre.
Vous avez des rêves fous, que ce soit aussi bien à Aix ou à Marseille, aussi bien dans les théâtres que pour le Festival de Pâques, des envies futures, à moyen ou long terme?
Non, mes rêves, j'essaye de les réaliser. J'ai pas de frustration. J'adorerais un jour que Paul McCartney, qui a écrit une symphonie, il vienne la faire au Festival de Pâques. J'aurais adoré que Lou Reed vienne faire un concert. J'adorerais que des artistes de dimension mondiale se disent « Tiens, il y a un mec à Aix qui a des rêves, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ?» Mais finalement... je me dis que j'y arriverai un jour. Je pense que il n'y a pas de limite quand on a du désir.
Alors avant d'entendre Paul McCartney, on va déjà aller donc au Festival de Pâques. Je rappelle qu'il se déroulera du 14 au 27 avril à Aix. Merci Dominique Bluzet.
Il y a une chose qu'il faut rajouter, c'est que c'est le seul Festival de Pâques en Europe où il ne pleut pas. Et il y a un certain nombre de concerts, d'artistes formidables qui seront là. C'est vrai que quand on se dit... quand on voit des gens comme Christian Tetzlaff, etc., c'est important. Et ça existe parce qu'il y a un mécène qui nous a aidés, qui est le CIC. Et ça, c'est une aventure formidable parce que tout ce que je vous ai raconté, ça n'aurait pas été possible sans eux.
Donc je rappelle les dates, 14-27 avril à Aix. Merci Dominique Buzet.
Merci à vous.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.